cet été, si vous partez en vacances ou si vous souhaitez correspondre avec vos amis, votre famille, vous allez peut-être faire usage d'une petite carte postale, vision pittoresque de votre lieu de villégiature, façade de monument historique, vue imprenable sur le paysage, à moins que vous n'optiez pour la recette de la potée locale, le petit dauphin qui fait toujours plaisir quand on le reçoit, voire plus lourd, la demoiselle dénudée en haut des pistes de ski. Alors les cartophiles le savent bien, avant que nous n'arrivions à ce summum de goûts douteux et de lieux communs touristico-économiques, les cartes postales étaient à une époque le reflet de la vraie vie des gens, ou la vie des vrais gens, on peut dire ça comme ça, un média à part entière des traces d'histoire locale. Einsteiner, bonjour.
Bonjour.
Alors, parlez bien près du micro, s'il vous plaît.
Oui.
Alors, bienvenue ici à Arras, au Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Vous êtes l'auteur du livre « Le temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la Belle Époque » aux éditions L'Échappée, dans une collection qui s'appelle « Action graphique ». Alors, justement, peut-être un petit mot sur cette collection et sa démarche.
Sa démarche, c'est de présenter à travers un support graphique qui peut être le roman graphique, le dessin de presse, la photographie, toutes sortes d'illustrations, et bien des récits, des témoignages de luttes sociales, de combats sociaux, ou tout simplement des critiques sociales. Voilà.
La petite présentation de la collection parle de lutte des signes, c'est-à-dire qu'il y a un combat iconographique qui est en jeu là. Enfin, c'est...
Oui, au sens où on est inondé d'images de toutes sortes, notamment publicitaires, et là c'est image contre image. Voilà.
Alors, Einsteiner, vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université Paris-Ouest Nanterre-la-Défense. Vous
avez... Nanterre, on s'arrête là.
D'accord. Vous avez écrit des ouvrages sur les mouvements anarchistes et les luttes sociales, fin 19e, début 20e. Les cartes postales, c'est un sujet d'étude important pour cette époque ?
Oui, enfin moi je les ai découverts en travaillant sur d'abord les anarchistes individualistes. J'avais fait un livre en 2008 et j'avais découvert déjà un certain nombre de cartes postales de ce courant politique, enfin voilà, des groupes même d'amis qui se photographiaient, qui en faisaient des cartes postales, notamment les communautés de vie, puisqu'il y avait pas mal de ces jeunes gens et jeunes femmes qui avaient créé des communautés d'habitat. Donc ça avait été une première découverte. Et puis j'ai creusé un petit peu le fil de cette époque. Donc je me suis intéressée aux grandes émeutes en région parisienne, grandes manifestations émeutes. Et là vraiment, j'ai découvert que tous ces événements étaient abondamment couverts par ce média qu'est la carte postale. Et donc je suis rentrée en contact avec des collectionneurs. J'ai pris connaissance d'un fonds très important de 5000 cartes postales de grève qui était au musée d'histoire vivante de Montreuil, qui avait été constitué par un ouvrier typographe dans les années 1950-1960. Et j'ai eu l'idée donc de faire un livre, bien sûr, qui est une suite de récits de grève, mais où la carte postale prend une importance très importante, qui n'est pas seulement d'illustration, c'est-à-dire de raconter l'événement à travers ces séries de cartes.
Voilà. La carte postale, à cette époque-là, c'est un média important ?
Bien sûr, parce qu'il n'y a pas encore de photographie de presse. Il commence à y avoir des photographies dans la presse, mais elles sont de très mauvaise qualité. Donc on a par contre un dessin de presse très vivant. Il y a les plus grands dessinateurs de presse de cette époque. Donc confient des dessins à l'Humanité, la guerre sociale et tous les journaux libertaires. Mais pour ce qui est photographie, c'est la carte postale qui va jouer le rôle qu'a joué plus tard la photographie de presse. Donc en fait, les grands éditeurs de cartes postales, parce qu'il y a des grands éditeurs qui emploient jusqu'à 300, 400 ouvriers, envoient des reporters photos dans les villes où il se passe des événements. Ce n'est pas forcément des événements sociaux, hein, ça peut être autre chose. Ça peut être des catastrophes naturelles, par exemple, ou des inaugurations de monuments et il les charge de photographier. Ou alors, il s'appuie aussi sur un réseau de photographes locaux qui travaillent pour eux, qui leur envoient des clichés de paysages, parce que dès le début, il y a quand même ça, hein, les paysages, les costumes locaux, les traditions, et qui leur envoient, quand il se passe quelque chose, voilà, des clichés sur ces événements. Et puis, il y a aussi localement des photographes qui prennent l'initiative de faire des photos et qui les font imprimer. Ils sont en général associés à un imprimeur papetier. Voilà, donc on a plusieurs cas de figure.
Ce qui fait que les gens qui prennent des photos pour les cartes postales sont présents avant les journalistes à cette époque-là, quoi, sur les lieux.
Bah, quand c'est des grands éditeurs de cartes qui envoient des reporters, non, ils arrivent en même temps. Hein. Mais quand c'est des photographes locaux, bah, c'est concomitant. Par exemple, les événements qui sont passés à Courrières, pas loin d'ici, il y a eu en même temps des photographes, toutes sortes d'ailleurs, des petits photographes du coin, des photographes envoyés par les grandes maisons d'édition de cartes et des journalistes. Ils arrivent à peu près en même temps.
C'est un support important d'études pour les historiens et pour les sociologues de cette époque ?
Bah, ça pas, enfin, les sociologues, il y en avait pas. Et normalement, les sociologues ne s'occupent pas beaucoup d'histoire, mais moi, oui. Et pour les historiens, ça devrait être un support important. Ça n'a pas été utilisé autant que ça aurait pu l'être. Quand c'est utilisé, c'est juste voilà, à titre d'illustration, mais il n'y a pas eu beaucoup de travail à partir de la carte postale. Pas assez.
Un mot aussi sur l'usage en fait, que les gens faisaient à l'époque des cartes postales. Est-ce qu'envoyer une carte postale de grève, ça dénote, à la fois pour l'expéditeur et celui qui le reçoit, un engagement particulier ?
Ah, pas du tout. Alors ça, c'est ce qui m'a vraiment le plus surpris. J'examinais bien sûr le dos des cartes quand c'est écrit, parce que beaucoup de cartes qui nous parviennent sont des cartes qui finalement n'ont pas été écrites, ont peut-être été achetées pour des collections d'emblée. Hein. Mais quand c'est écrit, bah souvent, c'est complètement déconnecté de l'événement. Alors, on est très, très étonné. Hein. C'est « je suis bien arrivée »,« maman est malade »,« tout va bien », voilà, « mille baisers », c'est très succinct et ça a rarement un rapport. Alors, bon, ça voyage à découvert aussi. Alors, quelquefois, il y a un rapport, mais c'est un peu ironique et à mots couverts. Hein. Par exemple, vous avez la maison d'un patron complètement brûlée. Ça arrivait, hein, qu'on brûle les maisons des patrons. Et dessus, parce que les gens écrivent encore côté photo, souvent, il y a écrit « Oh, la belle vue ». Et c'est signé Baptiste. Hein. Donc, bon, ça, c'est pas innocent. Mais c'est exprimé comme ça. Et puis, je suis déjà tombée sur des cartes envoyées par les forces de répression, des dragons. Donc c'est souvent des jeunes soldats qu'on envoie, et à un moment donné, comme il y avait une mutinerie dans le Midi avec des soldats du CRU, bah ils essaient plutôt d'envoyer des gars du Nord au Sud et des gars du Sud au Nord, donc ils sont cantonnés et ils écrivent à leur famille, et là, quelquefois, c'est signé par des soldats. On le voit parce qu'ils se plaignent de la tâche qu'ils ont à accomplir et des manifestants qui sont des sauvages, etc., etc.
Alors, votre livre est divisé en chapitres, et chaque chapitre correspond à une lutte sociale bien localisée. Alors, la première lutte dont vous parlez se passe du côté de Limoges. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ça se passe pas du côté de Limoges, mais à Limoges même. Alors, Limoges, c'est d'abord une ville très rouge. Hein, c'est Limoges la Rouge. On le voit évidemment au taux de syndicalisation, au fait que la municipalité est dirigée par des socialistes. Et on le voit aussi au taux important d'enfants non baptisés, hein, plus d'un quart, des enterrements civils, de mariages civils, mais il y a aussi un taux d'union libre très très important. Donc le fait qu'il y ait une telle déchristianisation, en général, c'est lié à une politisation forte des habitants. Hein. Parce que, voilà, c'est en général, les socialistes sont athées à cette époque. Enfin, quand je dis socialiste, c'est très, très vaste, hein, c'est communiste, anarchiste, etc. Donc, c'est une ville rouge et où il y a très, qui est agitée périodiquement par des mouvements sociaux. Et l'année 1905, ça commence dans la chaussure. Il y a deux grandes industries, la chaussure et la porcelaine. Et les usines de chaussures, les unes après les autres, se soulèvent. Enfin, il se produit des grèves qui ont une tonalité quand même assez violente. Et à un moment, ça va démarrer dans la porcelaine. Alors, quand une usine est en grève, toute la population est solidaire. C'est-à-dire, lorsque les grévistes défilent, ils sont accompagnés par des ouvriers, ouvrières, d'autres usines, des enfants aussi. Il y a beaucoup d'enfants sur ces cartes postales. Et c'est d'ailleurs un des éléments les plus précieux, parce que dans les récits de grève, on voit les adultes, mais on ne parle jamais des enfants. Or, les enfants, ils sont touchés de plusieurs façons par la grève. Et déjà, parfois, ils sont eux-mêmes de jeunes grévistes, puisqu'on commence à travailler à 12-13 ans. Et puis en avril 1905, dans un atelier de porcelaine, de peinture sur porcelaine, une grève éclate pour demander le renvoi d'un contremaître qui a abusivement licencié deux salariés. Et le patron refuse, et ça va très vite prendre une dimension violente. Alors, ça se passe dans une usine qui est tenue par un Américain à Villan, hein, dont le père était négociant, et les deux fils ont fondé des grandes fabriques, c'est les deux plus grandes de Limoges. Et donc, quelques jours après, dans l'autre usine à Villan, c'est des usines qui emploient 1000 personnes chacune, il y a une grève qui éclate pour demander aussi le départ d'un contremaître, lequel contremaître a licencié un homme parce qu'il avait fait enterrer civilement son fils. Et très vite, les frères à Villan, qui en fait, dans le syndicat patronal, ont un rôle prépondérant puisqu'ils ont les plus grandes usines, demandent aux autres fabricants de lock-outer leurs ouvriers. Parce que s'ils ne le faisaient pas, évidemment, les concurrents récupèrent les commandes. Hein. Donc du coup, c'est lock-out de toute la population. C'est 10 000 personnes, 10 000 salariés à la rue, donc 10 000 ménages touchés par la faim, parce que la faim, ça arrive très vite hein, dans les grèves. Y a pas, les ouvriers n'ont pas d'économie, donc à partir du troisième jour, on ne mange plus. On mange parce qu'il y a des pratiques de solidarité dont je vais vous parler, mais sinon, voilà. Et c'est très violent. Du coup, ça déclenche une véritable émeute. Et on a des témoignages de cette violence avec la voiture incendiée, hein, par exemple, ces barricades dans les rues. Et donc, à l'annonce du lock-out, il y a un meeting qui se tient à la Bourse du Travail. Et les manifestants descendent vers le centre-ville et pillent des armureries sur leur passage. Pendant la nuit, il y a des perquisitions qui sont opérées pour retrouver les armes et on arrête 20 personnes. Le lendemain, donc, il y a un grand rassemblement à la préfecture pour demander la libération de ces 20 personnes emprisonnées. Le préfet refuse, donc la foule se rend en masse autour de la prison pour libérer elle-même. Ça aussi, c'est pratique courante. Hein. Et des fois, ça marche. Bon, là, ça n'a... Donc, on se rend à la prison et on entreprend de libérer les camarades. Donc, ils défoncent le portail. Et derrière, on voit tous les soldats. Et la troupe encercle la prison, arrive à chasser la troupe à cheval, hein, à chasser les manifestants qui se réfugient sur un jardin qui est un petit peu en surplomb. Et là, il y a des tirs des deux côtés, puisqu'il y a aussi des manifestants qui tirent, et la troupe tire. Et il y a des blessés très graves. Et un jeune homme qui s'appelle Camille Vardel, qui est très connu à Limoges aujourd'hui. Voilà, c'est ce jeune homme est assassiné. Il a 19 ans. Et c'est une figure qui va devenir importante pour Limoges et qui symbolise très bien ce prolétariat ou cette classe ouvrière de Limoges, parce qu'il est peintre en porcelaine, il est passé par la première école technique de la ville qui a été créée peu de temps avant, et son père est ouvrier de la porcelaine, et sa mère monteuse en chaussures. Donc on a les deux industries là, les plus importantes. Et voilà, donc ils vont finalement obtenir satisfaction, mais il aura fallu des morts. Et à la Chambre, il y a pas mal de débats autour de la question. Il y a une militante qui s'appelle Antoinette Sorgue, une fille de Saint-Simonien, venue de l'Aveyron, une femme qui parcourt la France de grève en grève, et elle sera courrière aussi. Elle sera
courrière aussi, oui.
Ouais. Et Antoinette, donc, enquête sur la grève de Limoges. Elle est interviewée par la presse locale, et elle parle de harcèlement sexuel. En fait, derrière cette histoire, à la base, le contremaître dont on demandait le départ était un contremaître harceleur. Alors, c'est très souvent le cas quand il y a des grèves de femmes, mais ce n'est pas toujours dit, parce qu'il y a une certaine honte à en parler. Donc, on parle de contremaître autoritaire, arbitraire, etc. Mais très souvent, et elle a fait une enquête sur toute la France. Et l'intérêt de son intervention, c'est que ça va être discuté à la Chambre et pris au sérieux. Hein. Et on découvre l'étendue du problème. Parce que les contremaîtres ont un pouvoir inouï. Souvent, c'est eux qui servent d'intermédiaire pour l'embauche. Donc on veut faire embaucher quelqu'un de sa famille, on va les voir et ils trouvent une place. C'est eux qui distribuent les tâches, et dans un atelier, même si on est censé faire le même travail, il y a des tâches plus ingrates, des postes aussi, on peut être en plein courant d'air, en pleine poussière, ou pas. C'est des petites choses, quand on fait 12 heures par jour, qui comptent énormément, hein, d'avoir un peu moins froid, d'avoir un peu moins de poussière, etc. Ils donnent des amendes. Hein. Il y a des amendes pour travail non fait, pour retard. Et ils peuvent aussi faire sauter les amendes, évidemment. Hein. Du coup, ils ont des moyens de pression incroyables sur les femmes.
Oui, justement, puisqu'on parle de la place des femmes dans ce conflit social, ce qui est aussi important de préciser, c'est qu'on est dans une époque de déqualification de ce métier-là, de ces métiers-là, notamment liés à la porcelaine, et que d'un nombre important d'ouvriers qualifiés, on est passé dans ces années-là à un nombre important d'ouvriers, de postes déqualifiés, et justement avec beaucoup de femmes et des enfants
et d'adolescents
qui occupent ces postes.
Voilà, par exemple dans la porcelaine, former un peintre, c'était un long apprentissage et les salaires étaient assez élevés pour la classe ouvrière. Et ils sont entre artistes et artisans parce qu'ils avaient une certaine latitude quand même sur le décor qui était fait au pinceau. Et on invente la décalcomanie. Donc on n'a plus qu'à appliquer et il n'y a pas besoin d'un long apprentissage. En fait, en 3 jours, on apprend à les poser correctement et le tour est joué. Et effectivement, les femmes qui font ça, parce que ça va être des femmes, sont payées 6 fois moins qu'un peintre. Ben oui, parce qu'un peintre, enfin, on paie le temps de formation de la force de travail. Il a un très long temps de formation, donc voilà. Et ça crée une certaine hostilité au travail féminin, qui est important à l'époque, puisque c'est 37% des ouvriers qui sont des ouvrières. Hein. Donc d'abord, les femmes sont très nombreuses à travailler. Avant la guerre de 14, les femmes travaillent massivement, que ce soit dans l'agriculture, le commerce, mais aussi, on l'oublie souvent, dans l'industrie. Voilà. Et il y a une certaine hostilité des syndicats par rapport au travail féminin, parce qu'effectivement, beaucoup de postes sont confiés à des femmes parce que le métier est déqualifié à cause de l'introduction de certaines machines ou procédés. Voilà.
Alors, si vous voulez bien, on va passer au deuxième chapitre et on va arriver dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, chez nous, avec un moment qui est resté gravé dans la mémoire collective ici. Hein, beaucoup de gens, s'ils ne s'en souviennent pas, au moins ils en ont entendu parler. C'est la catastrophe de Courrières en 1906. Hein, on a fêté il n'y a pas longtemps le centenaire de 110 ans de cet événement malheureux.
Commémoré
plutôt, on va dire ça comme ça. Là aussi, un contexte qu'on connaît peut-être mieux ici, hein, c'est celui des mines de charbon, l'exploitation du charbon dans la région.
Voilà, alors pour Limoges, je finis juste pour dire que le fameux contremaître a quand même été chassé, hein, mais il aura fallu à quel prix. Donc, le Nord-Pas-de-Calais, ça c'est la grève de 1906 qui fait suite immédiatement à une catastrophe de très grande ampleur, hein, inégalée en Europe jusqu'à aujourd'hui. Et les circonstances dans lesquelles cette cette catastrophe s'est produite sont déjà absolument scandaleuses. Hein. Le 10 mars, il y a un délégué mineur à la sécurité. Ça, c'était le produit de grèves bien antérieures. Les mineurs avaient obtenu qu'il y ait des délégués à la sécurité chargés d'inspecter les galeries. Donc, il y en avait un certain nombre parce qu'ils avaient un certain nombre de kilomètres à vérifier, hein, chacun. Et lui, cet homme qui s'appelle Simon Rick, alors qui a été immortalisé dans plusieurs cartes postales, Simon Rick avait détecté des foyers d'incendie depuis déjà plusieurs jours et l'avait signalé à la compagnie. Il avait dit qu'il y avait des gaz qui s'accumulaient, c'était dangereux. Et le matin du 10 mars, il descend, il détecte un foyer, il demande qu'on ne fasse pas descendre les mineurs et qu'on inonde. Et la compagnie refuse. La compagnie fait construire à toute allure un mur, hein, soi-disant capable d'isoler ce foyer d'incendie, qui donc condamne une galerie, mais c'est une galerie abandonnée. Le foyer se produit dans cette galerie abandonnée. Et on fait descendre l'équipe du matin. Et une demi-heure après, le feu s'engouffre dans les galeries. Et il y a plus de 1000 disparus, hein, 1100 disparus. Enfin, disparus, morts, en fait. Hein. Enfin, c'est l'effondrement. Donc, il y aura des recherches pendant 3 jours. Et au bout du 3e jour, la compagnie décide que ça a assez duré et qu'il faut reprendre l'exploitation. Et là, ça va déclencher la colère de la population du bassin. C'est annoncé au moment où on inhume les premières victimes et les discours des représentants de la compagnie, des ingénieurs, etc., sont interrompus aux cris d'assassins, salauds, etc. Ils reçoivent des pierres, début de lapidation. Et la grève éclate. Il y a aussi un autre élément qui montre le cynisme de ces compagnies. Ils veulent faire venir donc, des mineurs de Belgique et ils demandent à des veuves de quitter les corons. Des veuves et mères de victimes, parce que quand l'homme va à la mine, souvent les grands garçons aussi. Et donc des femmes qui ont perdu toute leur famille sont censées partir pour que de nouveaux mineurs prennent la place et reprennent l'exploitation.
Ça paraît incroyable aujourd'hui, mais c'est en même temps, ça témoigne un peu du rapport... Hein, du patronat aux ouvriers dans les mines à cette époque. Quoi.
Oui, c'est vraiment que de la force de travail. Et du coup, Clémenceau se déplace, il est nouvellement ministre de l'Intérieur, et il va voir le jeune syndicat, parce qu'il y a une rivalité entre le vieux syndicat réformiste, dont les dirigeants sont devenus députés, se sont embourgeoisés. Alors, on ne va pas dire que c'est des traîtres à leur classe, parce que c'est trop simple, mais en tout cas, ils sont perçus comme tels, et ils jouent toujours la modération. Ils veulent avancer lentement, que tout passe par le Parlement, que petit à petit, on vote des lois favorables. Puis, il y a un jeune syndicat affilié à la CGT de l'époque, donc CGT qui est nouvellement unifié et qui est révolutionnaire. Hein, c'est le syndicalisme révolutionnaire favorable à la grève générale et favorable au sabotage. Donc ce jeune syndicat animé par Benoît Broutchou, qui est un fabuleux personnage, qui a été mineur du côté de Monceau-les-Mines, qui s'est fait chasser et qui est venu dans le Pas-de-Calais. Donc il y a la rivalité entre les deux syndicats. Et Clémenceau se déplace et il va voir le meeting du jeune syndicat. Et contrairement à l'avis des députés qui considèrent, Bassely notamment, qui considèrent que ce sont des excités et que le ministre n'est pas à sa place en allant les voir. Il va les voir. Là, c'est des mineurs plus jeunes, d'ailleurs, qui sont attirés par la CGT. Et il leur tient le discours suivant, c'est votre droit de faire grève, etc. Je n'enverrai pas la troupe, mais vous ne devez pas faire entrave au travail de ceux qui veulent travailler. Voilà. Et en fait, évidemment, immédiatement, à peine Clémenceau parti, il se produit des heurts entre les jaunes, ceux qui veulent quand même aller travailler, qu'on appelle là des roufiou. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le terme, les roufiou, et les grévistes. Et ils essaient de bloquer les puits, bien sûr, d'en interdire l'entrée au puits. Quand on fait grève, on ne peut pas... En fait, quand on fait grève, le jaune, c'est un déserteur qui est passé au camp ennemi en temps de guerre. Hein, donc, en général, qu'est-ce qu'on fait d'un traître ? On le fusille. Donc là, c'est la même chose. C'est rude contre les jaunes. C'est les roufioux, là, dans ce cas. Les renards, dans d'autres professions, on dit les renards, chez les dockers, par exemple. Et c'est très rude. On peut aller jusqu'à les tuer, ça arrive. Hein.
Oui, notamment les maisons des femmes aussi saccagées. Enfin,
Oui, y a des choses pas très jolies, avec des femmes un peu molestées, des femmes de jaune, voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est la guerre. Et c'est la guerre sociale. Donc on envoie la troupe. Et il va y avoir énormément de soldats envoyés. J'ai jamais le chiffre en tête, mais... 30 000 hommes de troupes. 30 000, je ne sais pas si vous imaginez. C'est véritablement une armée d'occupation. Hein. Tous les puits sont gardés, les villages sont envahis, les corons par des dragons casqués et montés. Et la grève va être accompagnée, effectivement, d'un certain nombre d'actes de sabotage. On fait sauter des ponts. Alors, tout ça est représenté par les cartes postales. Hein. Là, on voit, par exemple, des non-grévistes d'Irufiu aller au travail accompagnés par la troupe. Alors ça redouble aussi, bien sûr, la colère des habitants, parce qu'on voit de quel côté ils sont, quand, manifestement, ils sont ainsi protégés par l'armée. Et ça va se terminer avec très peu d'acquis pour les mineurs. C'est vraiment une grosse défaite, parce que là, ils avaient effectivement la sympathie de toute la population, et il y avait une véritable dynamique. Jamais une grève avait été aussi suivie. Alors, c'est en partie dû, effectivement, au conflit entre les deux syndicats. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'unité syndicale, elle arrivera, du coup, plus tard. Mais ça va être une défaite. Mais il faut voir le rôle de la répression dans cette défaite. Très tôt, on arrête des leaders syndicaux, non seulement localement, comme le pauvre Brouchou qui est mis sous les verrous très vite, mais même au niveau le plus élevé de la CGT. Quoi. On met les gens sous les verrous. Pierre Monade, qui est venu prendre la relève de Brouchou pour animer le journal Le Réveil syndical, est lui aussi emprisonné, par exemple. Et évidemment, c'est pas qu'on a besoin de leader ou de chef, c'est pas ce que je veux dire, mais ça décapite quand même le mouvement. Ils montraient un peu la voie à suivre. Et ils indiquaient les cibles à atteindre, ils sont sous les verrous. Ça explique aussi la défaite du mouvement.
Alors justement, sur l'une des cartes postales, on voit une photo hein, de Benoît Brouchou, ce rude lapin. Et là, on retrouve à ses côtés...
Antoinette.
Voilà, Sorgue.
Voilà, la citoyenne Sorgue, toujours très élégante. Elle venait d'un milieu bourgeois, mais saint-simonien. Hein. Son père était un... propriétaire terrien dans l'Aveyron, saint-simonien, il l'avait élevé d'une manière... Et elle a fondé aussi une communauté en Amérique latine, enfin c'était une femme, mais quand on la voit pomponner comme ça, habillée en satin, elle fait très, très bourgeois. Et à côté, je pense, c'est la compagne de Brouchou, Antoinette, qui a l'air pas très commode, peut-être pas très contente de la proximité de Brouchou et Antoinette Sorgue, je sais pas, parce qu'elle a l'air assez farouche. Et derrière, il y a des jeunes mineurs. On voit, c'est quand même des gars assez jeunes. Alors lui tenait un estaminet parce qu'il était interdit professionnel. Il pouvait plus s'engager dans aucune mine en France. Et beaucoup de mineurs, dans ce cas, sont partis aux États-Unis, où ils sont devenus mineurs. Ils ont milité dans les IWW, donc le mouvement syndicaliste révolutionnaire américain. Beaucoup de mineurs français. Et il y avait d'ailleurs des publications de mineurs révolutionnaires en français.
Alors, troisième chapitre, si c'est OK pour vous. Là, on va passer dans
la Picardie.
En Picardie. Maintenant, c'est aussi notre région. Donc, avec un chapitre intitulé Jacquerie Picard. Donc là, on est à Fressonville. Peut-être une petite description de là où on se situe et des usines qui sont en place dans cette ville à l'époque.
Alors, c'est le plateau du Vimeux, c'est à l'ouest d'Abbeville, ça court jusqu'au Tréport. Et ça a été le fief de la serrurerie. Assez tôt, des industries de la serrurerie se sont installées. Et assez tôt, hein, dès le 17e, 18e siècle, et ça prend de l'ampleur au 19e, où grâce à de nouveaux moyens, de nouveaux métaux, nouveaux alliages, etc., on travaille à un niveau plus industriel et moins artisanal. Donc, assez vite, en fait, dans certaines familles d'artisans aisés qui avaient des ateliers qui faisaient travailler 3, 4, 5 compagnons, eh bien, il y a une progression, c'est-à-dire on aboutit à la troisième génération à des propriétaires d'usines qui font travailler plusieurs centaines, voire un petit millier de personnes. Donc des fortunes vite acquises et ces nouveaux riches se font construire des demeures aux allures de châteaux, avec des tourelles, des... Bon, bref. Et c'est très mal encaissé par la profession, on le verra, avec la grève de Fressenneville. Alors, eux ont un discours très paternaliste, estiment qu'on travaille tous en famille, que les ouvriers d'aujourd'hui sont les petits-enfants des ouvriers du grand-père, etc. Mais en fait, il y a eu toute une haine accumulée. Alors,
ce côté paternaliste, le discours du patronat, c'est de dire « Bon, c'est bon, vous êtes mes enfants, donc pas besoin de syndicat, quoi. »
Voilà, c'est ça. Alors, ils l'élogent aussi, ils ont construit, parce qu'il a fallu cette main-d'œuvre la loger. Hein. C'est pas que des gens de Picardie qui travaillent là. Donc, il y a des migrants, des gens qui viennent de régions plus déshéritées. Du coup, ils sont à la fois propriétaires, patrons, etc. Et la grève éclate au moment où on renvoie un syndicaliste, un type qui vient de fonder une section syndicale, qui est anarchiste. Bon, c'est beaucoup d'anarchistes à la base dans la CGT, composée à cette époque de très nombreux anarchistes, plus de la moitié des effectifs, je dirais. Donc beaucoup de sections sont fondées dans tous les secteurs d'activité par des anarchistes. Brouchou, par exemple, le fameux Brouchou est anarchiste. Bon, je dis ça comme ça, mais donc ce garçon qui s'appelle De Poilly a fondé un syndicat et du coup on vient le voir, enfin un des patrons vient le voir et lui dit de c'est Riquier, les patrons, c'est des cousins qui travaillent ensemble. Qui ne travaillera plus là et qu'il pourra travailler à domicile. Et du coup, il a, ça c'est la règle maison, 15 jours. Voilà, on lui laisse 15 jours, mais dans 15 jours, il devra quitter son travail. Lui alerte immédiatement le syndicat. Et il y a une réunion organisée dans un café. Et ça irrite beaucoup les patrons. Du coup, on vient le voir... Ça, c'est le tout début avril, ça doit être le 2 avril. Le patron lui dit, écoutez, vos 15 jours, vous ne les ferez pas. On vous donne ce qu'on vous doit. Vous serez payé, mais vous ne les ferez pas. Vous n'aviez pas alerté le syndicat. Donc, il n'en tient pas compte. Il revient après la pause déjeuner en disant, moi, j'ai toujours gagné l'argent que je reçois. Donc... Je le gagnerai. Et il commence à rentrer dans l'usine et à dire de toute façon, l'usine appartient aux ouvriers, pas au patron. Et puis il y a des jeunes filles à ce moment-là qui sortent, qui ouvrent les fenêtres parce que ça commence à faire du bruit. Et je sais pas, c'est le printemps aussi, elles sont énervées et elles se mettent à crier « Vive la grève !» Elles dévalent l'escalier, tout le monde descend et les voilà parties en cortège. C'est souvent comme ça que ça éclate à travers le village. Alors évidemment, pour qu'un cortège soit beau, faut un drapeau. S'il est rouge, c'est très bien. Elles prennent un drapeau tricolore, elles enroulent la partie blanche et bleue, et elles laissent flotter le drapeau rouge. Il y a une carte postale. J'ai quand même un petit peu peur que ce soit une reconstitution, parce que les choses s'étant passées de manière si spontanée, je ne pense pas quand même que le photographe était à l'affût. Bon. Et je pense que certaines scènes sont des reconstitutions. Mais enfin, on voit très bien ce drapeau rouge improvisé. Et les voilà partis. Donc Riquier, le frère Riquier qui était là, parce que l'autre était président de la cour d'assises. Voilà, ça se passait aussi comme ça. Ces gens-là, on les retrouvait avec des mandats politiques. On les retrouvait à jurer président des cours d'assises, etc. Donc lui, il est là. Il s'affole, il va chercher de l'aide, il prend sa voiture et part à Abbeville. Et du coup, les grévistes envahissent sa maison, commence à tout saccager, à jeter, à brûler déjà. Bon, en général, ça se passe comme ça quand on envahit une demeure patronale. On prend le piano, il y a une haine particulière contre les pianos et les billards. On les fracasse à coups de massue. On rassemble la vaisselle précieuse, enfin bref, tout ce qui peut se casser. On met le feu. Et comme tout ne brûle pas, là, les débris qui n'ont pas brûlé, ils les jettent dans la mare. Et puis, à un moment, ça n'est sûrement pas assez pour eux, ils mettent un bidon d'essence dans le lit de Madame Riquier, l'enflamment et toute la maison brûle. Toute la maison brûle. Et ce qui est très amusant dans cette histoire, c'est que, en fait, la CGT préparait le 1er mai 1906, depuis un an, qui devait être le début d'une grève générale pour la journée du 8 heures. Et il y avait une forte inquiétude dans la bourgeoisie, je dirais même pas le patronat, la bourgeoisie, toutes tâches confondues. Par exemple, il y avait pas mal de bourgeois parisiens qui étaient partis ou qui avaient mis leurs enfants, leur famille hors de Paris, etc. Et les Riquier avaient été interviewés dans le courrier Picard, juste avant, et on avait demandé à Julien Riquier s'il n'avait pas peur, sa maison était tellement proche, c'est vrai, elle était au milieu des maisons ouvrières, s'il ne craignait pas pour sa sécurité. Et il avait répondu, mais pas du tout, j'ai les meilleures, relations possibles avec mes ouvriers. Et Madame Riquier avait dit, mais moi, si j'étais menacée de quoi que ce soit, je ne pourrais pas trouver meilleur abri que chez mes ouvriers, chez les ouvriers de l'usine. Elle disait mes ouvriers, alors qu'elle n'était pas patronne, d'ailleurs. Et voilà. Et en fait, vous voyez là, à quel point il y avait un malentendu entre ces gens qui se croyaient aimés et ces ouvriers qui les haïssaient à un point extraordinaire. Parce que là, il y a eu des scènes qui témoignent d'une haine qui me met mal à l'aise. Hein. Par exemple, ils ont sorti les portraits des deux jeunes filles qui avaient 14 et 16 ans. Et ils ont crevé les yeux, enfin l'étoile à l'emplacement des yeux. Et ils les ont brandis. Donc ça témoigne d'une haine incroyable. Mais ces gens-là, ces nouveaux riches, étaient... étaient dans la provocation complète. Ils avaient même fait déplacer l'église. Elle avait été démolie et rebâtie plus loin parce que ça gênait la perspective qu'ils voulaient avoir de sa maison. Des choses comme ça. Et puis, ils faisaient des chasses à courre ridicules dans la petite forêt minable qui était derrière. Ils avaient des domestiques en gants blancs, etc. Donc, la haine s'accumulait.
Alors, comment ça s'est terminé, cette histoire, alors ?
Bah, cette histoire, alors là, ils ont rien gagné. D'ailleurs, ils réclamaient finalement rien. Hein, ils protestaient contre un licenciement abusif. Et finalement, bah, ça s'est soldé par énormément de mois de chômage pour ces ouvriers, parce que les Riquier ont repris les affaires beaucoup, beaucoup plus tard, sous une autre raison sociale, hein, Guerville Mackenen. Et l'usine n'a rouvert que le 20 août, donc beaucoup d'ouvriers, d'ouvrières avaient été voir ailleurs. Par contre, Riquier a cessé d'être maire. Hein. Il était premier magistrat de la ville, là, ça lui avait suffi. Il a administré toutes ses affaires à distance. Les familles sont restées à Abbeville, n'ont jamais remis les pieds à Fressenneville. Voilà.
Quand on entend ces histoires, ces rapports de force conflictuels, la violence aussi dans les témoignages, on se dit qu'aujourd'hui... vous allez me dire, soit les conflits sociaux sont plus apaisés, soit la violence est moins acceptée. Et quand on voit un peu le pataquès pour une chemise déchirée aujourd'hui, ça interroge quand même.
Bah, je pense qu'il y a beaucoup moins de violence dans la société en général. Il y avait une violence très très, très forte, hein, quand même, qui est aussi une violence familiale. Violence de quartier, merci. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de violence dans les rapports humains. Il y avait encore des duels, par exemple. On réglait encore des différends par des duels au pistolet. Donc la violence était là, tout le temps. Hein. Et je pense... que la colère se manifestait très vite par ce type d'acte. Il y avait une plus grande tolérance, du coup, à la violence. Mais cette violence, elle vient aussi de la proximité entre le patronat et les ouvriers. Hein. C'est-à-dire, le patronat, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas des grands actionnaires qu'on ne connaît même pas. Le patron, il est là. On voit sa maison, on voit sa voiture. On a parfois connu le père ou le grand-père qui avait un rang social bien plus humble. Et par exemple, là, dans le cas de Fressenneville, le grand-père était estimé parce qu'un patron artisan, il était très proche de ses ouvriers. Il travaillait lui-même, il était à l'établi avec les ouvriers. Donc, il pouvait redevenir à un certain moment, d'ailleurs, un ouvrier. Et inversement, certains ouvriers devenir des patrons. Donc, on part de là et on arrive à des fortunes qui se constituent assez vite et un tout autre rapport. Alors, c'est aussi le moment où il y a de la distance qui est introduite par le personnel d'encadrement, c'est-à-dire qu'on utilise un personnel d'encadrement, qu'on met en place une discipline industrielle qui est très mal ressentie par les ouvriers. Il y a beaucoup, beaucoup de conflits éclatent quand même là-dessus. Alors après, évidemment, il y a des revendications salariales qui sont mises en avant, revendications par rapport au temps de travail, mais à la base, souvent, l'élément déclencheur, c'est un refus de la discipline d'arriver à telle heure, de sortir à telle heure. Il y a une résistance par rapport à ça. Et le personnel d'encadrement est vraiment détesté. Alors, il y a cette distance, donc le patron est moins proche, mais il est quand même assez proche hein, pour qu'on le connaisse, qu'on connaisse sa maison, qui est une bonne cible. Hein, et voilà, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la violence est si forte.
Alors, une des questions que, que ce livre, finalement, soulève aussi, c'est la question de la mémoire des luttes. Hein, parce que toutes ces luttes, on n'en entend pas forcément parler, elles sont relativement absentes des manuels d'histoire. Et puis quand on voit comment, par exemple, les gens peuvent ignorer ce qui s'est passé il y a 10, 15 ans, même localement, je veux dire, qui à Arras se souvient qu'il y a eu un mouvement des chômeurs ? Dans les étudiants d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a 10 ans, des gens ont fait une lutte contre le CPE. Contre la première embauche. Alors, comment vous voyez ça un petit peu, la mémoire des luttes
Oui, alors je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas dit finalement et qui est quand même important pour situer la période. C'est une période où il y a entre 1000 et 1500 grèves par an. Hein, même, je dirais, à partir de 1906, c'est entre 1200 et 1500 de 1906 à 1914.
Donc en France, alors ?
En France, oui. Jusqu'à 1913, parce qu'en 14, ça s'est arrêté en juillet. Voilà, en France. C'est énorme, qui mettent en branle des centaines de milliers d'ouvriers. Et la durée moyenne des grèves, par gréviste, c'est 15 jours. Ça veut dire que vous avez des grèves qui durent 4 mois. Hein. C'est énorme. C'est un moment d'ébullition, vraiment, ouvrière, parce qu'il y a un horizon, il y a des luttes ponctuelles, et, voilà, liées à des revendications spécifiques ou des protestations contre certains comportements abusifs, mais il y a aussi un horizon à atteindre qui est la grève générale. Ben, la grève générale, c'est un petit peu différent de la grève générale telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette grève générale, elle doit permettre de passer directement au socialisme sans s'emparer de l'appareil d'État. C'est-à-dire, tout le monde, à peu près en même temps, enfin dans un délai de 2 mois, va se mettre en grève, mais va continuer à produire en autogestion pour son propre compte. Et le syndicat sera, qui est un organisme de résistance, deviendra un organisme de distribution de la marchandise. Hein. Et donc, ben voilà, les boutonniers échangeront les boutons contre des boulons. Les voies de circulation, évidemment, seront utilisées au bénéfice de la population. Et du coup, c'est peut-être une conception naïve, mais à l'époque, en tout cas, ça aurait été réalisable parce qu'on produisait tout ce dont on avait besoin sur le territoire. Donc, on avait tout, les sources d'énergie avec le charbon, les moyens de communication et tous les objets fabriqués dont on pouvait avoir besoin. Hein. Il y en a certains dont on pouvait se passer. Par exemple, à Mérou, il y avait des boutons de nacre. On faisait venir ces coquillages du Japon et après de Polynésie. Bon, mais les boutons de nacre, c'était un article de luxe pour les bourgeois. On pouvait s'en passer. Par contre, on pouvait faire des boutons en métal ou en bois. En fait, on pouvait tout fabriquer. Et c'était ça l'idée, hein. C'était de se mettre à fabriquer pour soi, et l'État, on allait le laisser. Bon, s'ils venaient nous chatouiller sous la forme de dragons armés, casqués, évidemment, il fallait les affronter, hein. Mais on n'allait pas s'emparer de la machine d'État. Donc c'est ça qui met aussi les foules en marche, hein. C'est qu'il y a la revendication concrète, circonscrite, mais au-delà, il y a un horizon à atteindre, qui est la société sans classe et sans État. Et la fin du salariat.
On va reparler juste après, hein, peut-être de la situation d'aujourd'hui, mais avant ça,
la mémoire
des luttes.
Mais alors, et pourquoi justement cet épisode si virulent, si héroïque, moi je dirais héroïque, après tout, il ne faut pas avoir peur des mots, de l'histoire ouvrière de ce pays et a été mis sous le boisseau, c'est que on a un syndicaliste, l'acteur principal, c'est la CGT syndicaliste révolutionnaire, qui refuse tout assujettissement au parti, hein, qui veut être complètement indépendant des partis, puisque elle prend au pied de la lettre le slogan de l'international, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et après la guerre de 14, vous allez avoir une autre CGT qui va être sous la coupe du PCF. Et donc, cette histoire deviendra en quelque sorte une histoire honteuse. Hein. C'est de même que le gauchisme est la maladie infantile du communisme, bah, le syndicalisme révolutionnaire, ça devient la maladie infantile du syndicalisme. Et des maladies infantiles, on ne parle plus. Hein. Donc, hop, on a mis ça de côté. Et comme l'histoire ouvrière, elle a été faite... Les professeurs qui l'enseignaient à l'université, etc., étaient très souvent liés quand même au mouvement communiste. Bah, du coup, ils ont très peu lancé des étudiants sur ces périodes-là. Hein, alors, il y a Jacques Julliard qui avait exhumé la grève de Draveil. C'est le premier ouvrage grand public consacré à un événement lié au syndicalisme révolutionnaire. Et voilà, du coup, je pense que c'est à redécouvrir aujourd'hui, mais il y a une grande tristesse, enfin, j'éprouve une très grande tristesse devant le manque d'intérêt complet pour l'histoire ouvrière. Il n'y a presque plus de travaux engagés dans cette direction. On préfère les luttes identitaires aujourd'hui. Hein. Comme ça, les classes sociales, ça a disparu.
Dernière question, on fait le lien alors, avec ce qui se passe aujourd'hui en France, peut-être.
Oui, alors les cartes postales, du coup, m'ont permis aussi de retrouver ces luttes dont certains des événements, c'est vrai, étaient assez oubliés, n'ont pas été traités dans des ouvrages, des articles universitaires, etc. Fressenville, par exemple, il n'y avait rien du tout. Localement, les gens ont entretenu une petite mémoire de l'événement, mais au niveau national, rien du tout. Et c'est grâce aux cartes. En cherchant, je me suis dit, tiens, là, il s'est passé quelque chose, mais là, il s'est passé quelque chose. Et après, on va vers les textes. Alors aujourd'hui, oui, excusez-moi.
Oui, alors aujourd'hui, comment vous voyez un petit peu la mobilisation contre la loi travail, le mouvement des nuits debout? Alors, assez rapidement, Anne-Stéphanie, s'il vous plaît.
Oui, bon, là, je ne suis pas bien qualifiée pour en parler. Évidemment, moi, je veux bien tous ces mouvements, c'est sympathique. Il vaut mieux que les gens se voient, se rassemblent, se touchent que de combattre virtuellement. Mais je pense que ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est un horizon. On se bat, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut comme société? C'est ça. Là, ces gens savent ce qu'ils veulent comme société. Société sans classe et sans État.
Anne Steiner, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Le temps des révoltes, une histoire en carte postale des luttes sociales à la belle époque. C'est aux éditions L'Échappée. Et donc vous serez toute la journée au salon du livre d'expression populaire et de critique sociale à Arras. Merci à vous.
Oui, merci beaucoup.